Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est la Saint-Félix, ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture, vraiment. On va revenir par exemple sur Baron Noir et Vivaldi. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pouvez évidemment podcaster toute ou partie de l'émission ou la moitié qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média, ça sera Topito, qui est aujourd'hui le média de divertissement indépendant le plus drôle de France, selon Topito. 50 millions de pages vues, exemple d'infos qu'on peut y trouver. Le top 10 des questions à la con qu'on pose encore en entretien en 2020 alors que personne n'a jamais répondu honnêtement. J'ajoute qu'on fait vraiment la meilleure émission de radio selon Culture Média. Nos invités Zach et Alexandre, ils sont dans l'émission Cleaners, les experts du ménage, et sur TFX, une émission qui nettoie tout sur son passage. À commencer, l'audience, ça cartonne. Enfin, les comédiens François Berléand et François-Xavier de Maison, faut-il les présenter pour une pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. C'est eux qui avaient déjà écrit Le Prénom et cette pièce-là, c'est vraiment profond, hilarant comme on aime. Hélène Manarino va faire leur portrait croisé, évidemment inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Justine Holman.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Le journal des médias, c'est maintenant, c'est avec vous Benjamin Delsol, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors au menu ce matin Benjamin.
Un reporter de France Télé coincé en Chine, Rachida Dati, qui dit oui, Gérard Larcher sur Twitch et Arte qui nous laisse les clés.
Mais d'abord on commence par les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision?
Et c'est France 3 qui arrive en tête hier soir avec le téléfilm policier Le Canal des Secrets avec Annelise M. La fiction a été regardée par 4 983 000 téléspectateurs, soit 23,1% de part de marché. C'est un gros score. Ouais. Suivi par TF1 qui proposait un nouvel épisode de Magnum. La série a été regardée par 3 503 000 téléspectateurs, soit 15,9% du public. Et France 2 qui se classe à la 3e place avec Les Pouvoirs Extraordinaires du Corps Humain. Michel Simès et Adriana Carambeau se demandaient comment passer l'hiver en pleine forme et en bonne santé. La réponse était assez simple, il fallait aller en Laponie. L'émission a été suivie hier soir par 1 981 000 téléspectateurs, soit un petit 9,9% de part d'audience.
Un petit, mais c'était une rediff, donc c'est quand même vraiment pas mal pour une rediff. Et Michel Simès était notre invité il y a 2-3 jours. Le journal des médias maintenant, et vous nous parlez d'un reporter bloqué à Wuhan, je ne sais pas si je prononce bien, en Chine, à cause du coronavirus.
Ce sont des scènes à peine croyables. Imaginez cette ville de 11 millions d'habitants qui, en plein milieu de la semaine, devrait être grouillante. Nous sommes en plein milieu du quartier d'affaires de Wuhan. Là, il n'y a personne, on peut marcher sur la rue tranquillement, on ne sera pas dérangé ni par une voiture, ni par les gens, car les gens ne sortent plus, ils sont confinés dans ces immeubles, ils restent chez eux, il n'y a pas une boutique ouverte. On croise quelques personnes cependant qui viennent se ravitailler, acheter des produits de première nécessité, mais les gens restent à distance car tout le monde est méfiant par rapport aux autres. On ne sait jamais, quelqu'un peut porter le virus.
Vous venez d'entendre Arnaud Miguet dans un des reportages diffusés il y a quelques jours sur France 2. Il est le correspondant permanent de France Télévisions en Chine et il est surtout le seul reporter d'une télévision étrangère présent à Wuhan, Philippe. Oui. Il a été envoyé dans la ville le 22 janvier dernier, quelques heures avant le blocus. Vous le savez, depuis 22 jours, la mégalopole, épicentre du coronavirus, a été mise sous cloche et le journaliste ne peut plus en partir. Ils sont, avec son caméraman, les deux seuls clients d'un hôtel qui aurait fermé s'il n'avait pas été là.
Et ils arrivent quand même à faire leur métier ?
Oui, mais pas sans difficulté. Vous l'imaginez, on a demandé à Arnaud Miguet comment il faisait pour travailler dans cette ville fantôme. Il répond à notre journaliste Alexandre Omar.
On a deux chauffeurs de taxi qui nous baladent un petit peu. On ne sort que 2-3 heures par jour, aussi en fonction des envies, des besoins de la rédaction et en fonction de ce qui se passe dans la ville aussi, de ce qu'on peut aller voir, de ce qu'on peut aller filmer. On a une traductrice qui est avec nous, qui est une locale, qui nous aide aussi beaucoup. On va dans des lieux comme des pharmacies. Finalement, il n'y a que les pharmacies et les épiceries qui sont ouvertes. Donc, on fait assez vite le tour.
Et le correspondant de France Télévisions doit montrer ce que l'on ne voit pas, et notamment les habitants qui ne sortent plus dans la rue.
De temps en temps, on arrive à aller chez les gens qui ne vous ouvrent pas leurs portes très, très facilement. Mais on a réussi comme ça à aller faire quelques témoignages de gens qui étaient eux aussi cloîtrés chez eux et qui ont toujours peur d'un corps étranger qui rentre dans leur maison. Mais voilà, les gens restent chez eux. Nous, on a une profession, il faut qu'on aille témoigner, il faut qu'on aille raconter, il faut qu'on aille à la rencontre des gens, tout en restant à distance et bien sûr avec son masque vissé sur le nez. Mais on a un travail à faire, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs.
Et là, il y a encore pour quelques temps, quelques jours, a priori, la situation à Wuhan est loin d'être réglée. On peut retrouver ces reportages dans les différentes éditions du JT de France 2.
Et on souhaite bon courage à Arnaud Miguet. On va changer de sujet. Vous nous annoncez que Rachida Dati a dit oui.
Oui, elle a dit oui. À 32 jours du premier tour des élections municipales, la candidate Les Républicains à la mairie de Paris a finalement accepté de participer à un débat télévisé avec les 6 autres candidats. Si tout le monde y va, on ne va pas faire nos divas, on ira aussi, a expliqué un membre de l'équipe de campagne de Rachida Dati. Pourtant, la semaine dernière, dans une interview donnée aux Échos, Rachida Dati a affirmé ne pas être favorable au principe d'un débat télévisé entre les 7 candidats à la mairie de Paris. Une foire d'empoigne assurée, Paris mérite un débat sur le fond et avec du temps, a-t-elle précisé.
Et alors la foire d'empoigne ou non, ça sera quand et sur quelle chaîne?
Le mercredi 4 mars, mais on ne sait pas encore sur quelle chaîne. Plusieurs propositions sont sur la table, celle de France Télévisions, celle de BFM TV et d'LCI, à voir maintenant s'il y aura un débat de fond et du temps.
Gérard Larcher, quant à lui, il a choisi Twitch.
Vous pensiez le réseau social Twitch réservé aux jeunes streamers qui jouent en live aux jeux vidéo, que nenni. Gérard Larcher est là aussi, le président du Sénat a accepté l'invitation du journaliste Jean Massier à venir répondre à ses questions et surtout à celles des viewers, c'est ceux qui suivent donc le live, dans son émission Questions aux sénateurs diffusée donc sur Twitch.
Jean Massier qu'on recevait ici il y a quelques semaines.
Oui, il était venu parler d'Acropolis, c'est sa chaîne de streaming citoyenne qui encourage le débat démocratique et fait se rencontrer virtuellement internautes et hommes politiques. Alors, à quel genre de questions Gérard Larcher doit-il s'attendre cet après-midi? Nous avons posé la question à Jean Massier qui reçoit des sénateurs tous les mercredis.
Les gens qui vont lui poser des questions, c'est des internautes sur une plateforme de jeux vidéo, donc c'est plutôt des gens qui sont très éloignés de la politique, qui n'ont pas l'habitude de poser des questions à un politique et encore moins au président du Sénat. Et on peut s'attendre à des questions très cash sur à quoi ça sert le Sénat, est-ce qu'il faut supprimer le Sénat, est-ce que le Sénat est vraiment un contre-pouvoir, la question de la caisse de retraite des sénateurs, est-ce qu'il faut la supprimer. C'est typiquement le genre de questions que les politiques y retrouvent quand ils se baladent sur le marché le samedi matin. C'est pas des questions de journalistes, c'est des questions de citoyens, des questions très directes, parfois très terre à terre, parfois des questions très provocantes et très politiques, mais en fait les politiques, ils aiment beaucoup ça. Les sénateurs, ils aiment beaucoup quand on leur parle des sujets qui fâchent de manière très directe. Mais au fur et à mesure que l'interview se déroule, en fait, je sens vraiment que les muscles se détendent, qu'ils deviennent des vrais êtres humains normaux comme tout le monde. Et du coup, c'est une interview qui se passe assez bien pour cette raison-là.
Et l'interview Les muscles détendus de Gérard Larcher sera diffusée en direct aujourd'hui de 17h à 18h sur la chaîne Twitch Acropolis, mais aussi sur le site publicsénat.fr.
Et pour terminer, Arte qui offre à ses téléspectateurs la possibilité d'être en quelque sorte directeur des programmes.
Oui, les téléspectateurs peuvent voter pour les programmes qui seront diffusés le samedi 29 février prochain, un jour qui n'a lieu qu'une fois tous les 4 ans. Quel est le lien entre les deux infos? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, un espace dédié intitulé « Faites votre télé » a été ouvert sur le site d'Arte.tv pour offrir plusieurs options. Il y a l'embarras du choix. La voix off des bandes annonces d'Arte l'explique mieux que moi. Écoutez.
Vous avez le choix entre 15 programmes au total. Rockstar ou opéra? Science-fiction ou mode? Chat mignon ou bête sauvage? Romance ou polar?
Et les téléspectateurs ont jusqu'au 28 février pour choisir les programmes qui seront diffusés le lendemain en début d'après-midi à 14h, puis en prime time où ils pourront choisir entre 3 fictions. Et à partir de 22h25, ce sera l'heure des documentaires au choix. Un voyage dans l'espace, dans l'univers d'Yves Saint-Laurent ou un docu sur les Rolling Stones suivi d'un concert d'Iggy Pop. Alors Philippe, vous choisissez quoi? Attention, on n'a pas tous les sons.
Je ne vais pas dire le chat mignon, alors je vais dire Iggy Pop.
Iggy Pop, parfait, à voter.
Merci beaucoup Benjamin, à demain.
À demain.
Restez avec nous dans quelques minutes, on parlera de Topito, le site web d'infodivertissement avec des classements en tout genre. Sa fréquentation ne cesse d'augmenter. Philippe Vandel reçoit le responsable des réseaux sociaux dans l'infomédia du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et tout de suite Philippe, c'est l'infomédia du jour.
Topito est aujourd'hui le média de divertissement indépendant le plus drôle de France, selon Topito. C'est un site qui propose des tops plus ou moins sérieux en fonction de l'actualité. On ne sait pas s'il est le plus drôle, mais en tout cas, il est l'un des premiers en termes de fréquentation. En janvier, 50 millions de pages ont été vues, plus 68% par rapport à janvier 2019, par plus de 11 millions de visiteurs uniques, et là encore, plus 56% par rapport à janvier 2019. Double record historique pour le site depuis sa création en 2006. Avec nous pour en parler, Benoît Lebrault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des réseaux sociaux à Topito. C'est quoi Topito, si je dois expliquer ça à ma tante Lucie, 70 ans?
C'est un média de divertissement, alors principalement en ligne. On a un site topito.com, mais on est aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Et en plus de ça, on organise des soirées stand-up, on sort des livres qui sont à la FNAC, on fait des jeux de société, des cahiers de vacances. Et des podcasts même, on fait de la radio.
Voilà, vous avez également, on peut le voir sur son iPhone ou sur son Samsung.
Partout.
Il y a tout. Vous adorez les tops, comme le nom l'indique, c'est peut-être des tops de tout et n'importe quoi. Je vais en citer quelques-uns. Le top 10, j'adore celui-ci, des questions à la con qu'on pose encore en entretien alors que personne n'a jamais répondu honnêtement, par exemple.
Par exemple, je sais pas, quelles sont vos trois qualités ? Personne répond.
C'est vrai, ouais.
Non, mais quelle qualité ? Bah, je suis beau, intelligent et solide.
Voilà, ouais. Où est-ce que vous avez l'intention de tuer le président des États-Unis ?
Oui.
Quand on prend l'avion pour aller aux États-Unis, les questions à la con. Le top 17 des participants à la bataille de Game of Thrones, du plus utile au moins utile.
Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est un vrai débat. On a tous vu cette bataille de Game of Thrones et il y en a qui ont quand même moins bossé que d'autres. Ouais. Donc, il fallait les reconnaître.
Top 10 des célébrités qui sont mortes au mauvais moment. Qu'est-ce que vous entendez par mauvais moment ?
C'est souvent qu'elles sont, mortes souvent en même temps que quelqu'un d'autre. Et donc, forcément, on les oublie et on pense à l'autre personne qui est morte et pas celle-là.
Voilà, exactement. Par exemple, vous avez une idée en tête ou...
Farrah Fawcett et Michael Jackson, par exemple. Ou ouais. Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday. Il me semble que c'était à peu près.
Voilà. Et Bob Marley. Et ça a coïncidé avec l'élection de François Mitterrand. Et c'est pour ça qu'on a très très peu parlé en France. Et Kobe Bryant et Michou, évidemment, qui a totalement éclipsé la mort de Kobe Bryant. Mais ça peut être aussi des sujets plus sérieux, comme le top 11, des trucs qui vont vraiment changer avec le Brexit. Là, par exemple, vous travaillez comment ? Vous travaillez avec des économistes ? Comment ça se passe ? Ça fait rigoler. Donc j'ai compris que non, ils ne travaillent pas du tout avec des économistes. Parce que nous, on a fait un sujet sur un top 10 dont vous avez parlé, qui était le top 10 des crises humanitaires oubliées des médias.
Exactement.
Pourquoi c'est très important ? Parce que moins on parle d'une crise humanitaire, moins elle se résout et plus les populations sur place souffrent. On va en écouter un que vous avez posté il y a quelques jours sur Facebook.
Numéro 8, un virus a besoin d'un autre pour se répliquer. Si on se fait infecter par des virus, c'est parce qu'ils ont besoin de nos petits corps pour se développer. Ils se multiplient pas tout seuls les virus, ils doivent implanter leur code génétique, en gros, dans nos cellules, pour que celles-ci fabriquent des copies du virus. En gros, on leur sert de grosses photocopieuses finalement. Il y a des virus devant nous avec des gobelets à café qui se racontent leur week-end avant de se multiplier. Tu es scientifique.
Alors t'as fait quoi ce week-end toi ?
Ce week-end, figure-toi que j'ai infecté un foie.
Mais non.
Si.
C'était bien ?
Très sympa. C'est vraiment, je te conseille. Je me copie ou t'y vas avant ?
Bah écoute, vas-y.
Ouais. Allez.
On fait mieux passer les messages avec de l'humour.
Exactement. Non mais c'est vrai, c'est des statistiques qui sont sorties. Les messages passent mieux quand on rigole, quand on est dans de bonne humeur.
Vous avez fait un petit lapsus, ce sont les messages, pas les massages. Je vous dis juste ça. On pourrait faire le top 12 des lapsus qu'on peut dire à l'antenne.
Mais les massages passent mieux aussi.
Vous cherchez toujours à traiter de l'actu, en l'occurrence ici le coronavirus, ou pas forcément. Est-ce que l'actu est un prétexte ?
Ah bah évidemment, tous les matins on se retrouve en réunion et on parle de ce qui nous a marqué, alors et on décide si on en parle ou pas. On n'est pas journaliste, donc si ça nous fait pas rire, si on a aucun moyen d'en faire quelque chose de drôle, bah on n'en parle pas.
Vous avez postulé à Topito, si je suis bien informé, c'est en 2015, la veille des attentats de Charlie Hebdo. On publie quoi sur un site de divertissement un jour pareil ?
Ah, c'est très compliqué, je suis arrivé la veille et c'est vraiment très compliqué parce que on ne sait pas, on est face à ce premier attentat en France, on ne sait pas si on doit en rire ou pas. Bah non, on ne doit pas en rire, donc on n'a rien publié pendant 3, 4, 5 jours et on a republié seulement après la manifestation.
Et là c'est parti.
Oui.
Voilà, là vous êtes remis à faire des vannes. Alors il y a mon collègue qui vient d'entrer, Mathieu Béliard, qui présente le 6-9 tous les matins sur Europe, qui avait une question pour vous, qui m'a posé la question. J'avais pas la question, Mathieu.
Et puis j'étais sur le départ, Benoît, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Pourquoi sur Topito, pardonnez-moi, c'est pas des comptes-ronds ? Pourquoi c'est un top 11, un top 7, un top 14, 42 ?
Alors il y a deux versions. La première, c'est que ton œil va être intéressé par le fait que ce soit 11 et pas 10.
Vous connaissez ou pas ?
Non,
parce que vous tutoyez, c'est pour ça. Donc.
Je l'écoute tous les matins, donc, tu te réveilles avec moi.
On se dit tu.
Non, donc il y a cette version où ça va te changer un peu et donc tu vas cliquer parce que tu vas dire oh, 11, c'est déstabilisant. Et la vraie version, c'est qu'on a la flemme d'aller jusqu'à 20, donc on y aller et on s'arrête à 11.
Je prends les deux réponses. Merci Philippe.
Merci Mathieu, merci pour cette très très bonne question que je n'avais pas prévue. Je lui ai dit, j'ai pas prévu cette question, viens la poser. Comment ça se passe ? Il y a une conf de rédaction le matin ?
Oui, c'est ça.
Quand vous êtes réveillé, vous écoutez Mathieu Béliard, ensuite vous allez au bureau.
Mais je dois bien dire que Philippe Vandel, le top qu'on a fait sur l'association CARE, c'est grâce à vous et à votre émission.
Ah, merci.
À la suite, je suis arrivé, je me suis dit, oh là là, faut qu'on en parle. En plus, ils ont fait un top 10, donc c'était encore plus simple de le faire.
Il y avait CARE copié-collé. Et vous êtes combien ?
On est 30. ouais. Topito. 30, mais on est en gros 15-20 personnes à créer du contenu et les autres, c'est la gestion de la boîte.
Les chiffres sont assez incroyables. Vous avez produit ici, ça n'a pas bougé, 27 914 articles en 14 ans. Ça fait 1993 articles par an. Ça en fait plus de 5 par jour. Comment vous faites pour vous renouveler?
C'est très drôle, c'est que l'actualité change tout le temps et les tops qu'on a fait il y a 10 ans sur les galères quand t'as un téléphone à clapper, ben on les fait aujourd'hui, les galères quand t'as un iPhone et puis demain les galères quand t'as un Samsung. Et donc finalement les blagues sont les mêmes, mais les formes changent, les sujets changent.
Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale au-delà du fait que ce soit intéressant ou que ce soit drôle?
Oh là là, ça je me suis dit non, je pense pas. Enfin, qu'est-ce que ça peut être, ligne éditoriale? Non, je crois pas. Enfin, il me semble pas. Enfin,
on arrive, vous dites qu'est-ce qui t'a fait marrer ce matin?
Exactement.
Et bim, on y va.
C'est exactement.
Et là, vous savez déjà ce que vous allez faire ou pas du tout?
Non. Mais
à
là,
quelle heure vous mettez en ligne les produits, les classements, les tops?
On commence le premier, il passe à 7h du matin, donc on le fait la veille.
Ouais.
Et puis de 7h jusqu'à 23h, toutes les heures à peu près, il y a un top qui passe sur le site. Et pareil sur les réseaux sociaux. Et
là, ce matin, vous avez mis quoi?
Ce matin, on a mis, je ne sais plus.
D'accord. Vous avez le temps de réfléchir, on marque une toute petite pause. Il va aller regarder sur le site ce qu'il y a et il revient avec nous. On sent le gars concerné. Hein. Franchement, il est à fond.
On continue dans un instant à parler de Topito et de sa fréquentation qui n'a jamais été aussi importante. Benoît Lebro, le responsable des réseaux sociaux du site, reste avec nous pour commenter cette croissance. Alors faites de même pour la suite de l'Infomédia du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Vous avez dû sûrement voir sur les réseaux des classements en tout genre. Eh bien, il y a de grandes chances pour que ce soit ceux du site Topito qui ne cesse d'augmenter sa fréquentation. Benoît Lebro, le responsable des réseaux sociaux, est votre invité ce matin, Philippe Bondel.
Vous êtes combien chez Topito?
On est 30, exactement.
30, et ça se partage comment?
On divise par 4. On a le service commercial, le service réseaux sociaux, le service rédaction, le service vidéo, à peu près.
Les gars qui inventent, vous êtes combien? Il y a combien de journalistes?
Oh, pas de journalistes, on est que des rédacteurs et des créateurs. Donc on est à peu près, allez, on va dire 15-20 à créer du contenu tous les jours.
C'est peu ou c'est beaucoup par rapport à vos concurrents?
Ah, je pense que c'est peu parce que souvent les autres, nos concurrents sont associés à des grands groupes. Donc
ouais.
Ils sont, je pense, pour certains, plusieurs centaines, si ce n'est une centaine à bosser. Donc nous, 30, on est petits joueurs, mais on produit quand même.
On parle d'une centaine chez Combini ou chez Minute Buzz, par exemple. Aucun des journalistes, vous l'avez dit, la moyenne d'âge, c'est
30 ans, à peu près.
Vous créez plus de 70% des contenus que vous diffusez. C'est quoi les 30% restants?
C'est ce qui nous fait marrer sur Internet. Donc ça peut être des illustrateurs, des vidéastes. On a plein de...
Vous le piquez?
Non, on leur demande.
D'accord.
On leur demande gentiment, on leur dit est-ce que ça vous dit. Alors, il y a plein de vidéastes qui sont très contents, on partage leurs vidéos.
On demande gentiment ou on demande en rémunérant? On parlera après du business model.
Ça dépend. Le plus souvent, on essaye de rémunérer depuis que les plateformes nous rémunèrent un peu. Donc on essaie de partager les revenus avec ses créateurs.
Alors sur Topito, il n'y a pas que des classements, il y a également des vidéos humoristiques comme celle-ci qui est intitulée « Les gens avec qui ne pas regarder une série ».
Celui à qui il faut tout expliquer.
Mais c'est qui, lui?
Lui, c'est le tueur, il est là depuis le début, en fait.
Ah, ok. Il a tué qui?
Le président.
Le président de quoi?
Mais toi, t'as le droit de vote, en fait.
Celui qui est trop relou, tel générique.
C'est même pas une série, ça.
C'est des gens qui bossent chez vous, qu'on se talent là, ou sont des youtubeurs qui viennent bosser pour vous?
Alors ça dépend, on a des youtubeurs qui viennent
là en l'occurrence.
Là en l'occurrence, il me semble, on a Urbain qui est de chez nous, après les autres voix, j'ai pas reconnu, mais je pense que
c'est
des gens.
Parce que ça, on aurait pu le voir chez des gens comme Cyprien.
Oui,
c'est le top 10 des relous en regardant une série.
Ouais, c'est ça. On a une partie youtubeur, donc on est aussi sur YouTube. Donc évidemment, on a repris les codes de YouTube pour en faire des listes.
Il y a plusieurs déclinaisons sur Topito. Il y a Topito Foot, donc c'est tous les trucs nazes du foot un peu.
C'est le meilleur du foot, les blagues autour du foot. Ouais.
Le meilleur ou le pire?
Les deux.
Topito Voyage.
Ça, c'est le meilleur et le pire du voyage.
D'accord. Où est-ce qu'il ne faut surtout pas aller?
C'est ça. Où est-ce qu'il faut absolument aller?
Voilà. Et Topito par an, c'est quoi? C'est que vos lecteurs, spectateurs, followers ont vieilli?
Ah, ils ont un peu morflé, ouais, tous, pour la plupart. Non, non, ça fait 10 ans qu'on existe. Donc, ceux qui nous ont qui sont arrivés en 2006, ils ont au moins 13 ans de plus. Donc, évidemment, et on se rend compte que finalement, on est parents à 28 ans en moyenne.
Ouais.
Donc, les 28... partenaires. Ça se dit pas, mais ouais. En tout cas, ces gens-là, ils sont intéressants et ils nous intéressent. Et comme on a beaucoup de jeunes parents à Topito, c'est facile de leur parler.
Vous avez des enfants vous-même ?
Non.
Vous êtes responsable des réseaux sociaux, c'est pas un hasard si on vous invite plutôt que votre boss. 60% du trafic du site vient des réseaux sociaux.
C'est ça, ouais. on est lié à ces plateformes.
C'est quoi votre cible ?
C'est 18-34 ans à peu près, et sur par an, on dépasse un peu les 34 ans.
Il y a Instagram aussi, plus 80% d'abonnés en un an sur Instagram. Vous êtes le média français qui génère le plus d'interactions sur ce site. Il y a une explication ou pas ?
C'est qu'on est drôle surtout, et que forcément ça marche. Non, mais on est les seuls à faire des images drôles, qu'on appelle des mèmes dans le jargon internet, et ça marche, et ça plaît, et ça se partage, donc on est les seuls à le faire.
Un mème, c'est sans l'accent circonflexe, et qu'on fait la personne qui fait exactement la même chose que...
C'est des détournements de choses virales.
C'est quoi votre format ? Est-ce que toutes les vidéos doivent être forcément courtes, forcément sous-titrées, forcément verticales, pour aller sur le portable ?
Non, c'est compliqué. Alors... Les vidéos doivent être le plus facilement consommables. Donc, le carré, c'est le plus évident parce que c'est ce qui est facilement exportable partout. Mais en effet, si on fait des choses sur Snapchat, c'est forcément vertical. Sur Instagram, c'est en grosse partie vertical. Donc, oui, il faut des sous-titres pour que ce soit... On avait à une époque 60% des gens qui regardaient sans le son nos vidéos. Donc, forcément, les sous-titres étaient obligatoires.
Topito a été créé en 2006, on l'a dit. Qu'est-ce qui a changé en 14 ans, à part le nombre de réseaux sociaux, le nombre de salariés ? En 2006, par exemple, quand Topito a été créé, j'ai regardé, l'iPhone n'avait pas été inventé. Il arrive en 2007.
C'est ça. C'est que Facebook n'existait pas, BuzzFeed n'existait pas. Donc, tout a changé. Tout.
Et est-ce dans les sujets, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne feriez plus ou d'autres sujets qui peuvent arriver ?
Ah, évidemment. Quand on a une petite communauté, on peut taper sur tout le monde, on est un peu enfant terrible. Mais aujourd'hui, on a une grosse communauté, on peut plus... Par exemple, on a dû faire les preuves que les roues sont des monstres ou je sais pas quoi. On a dû faire ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, on le ferait plus parce qu'on a une communauté de gens et que ce qu'on dit... peut avoir une incidence sur la vie réelle. Et il y a sûrement des petits-enfants qui se sont fait taper dessus parce qu'ils ont lu un top sur Topito. Donc évidemment, on a une responsabilité aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10 ans quand on est né. Quoi.
Voilà, et les vannes sur les Asiatiques qui sont intolérables maintenant étaient absolument tolérées il y a 15 ans. Et les blagues sur les Noirs du temps de Coluche et Michel Leeb, ça se faisait tranquillou.
Exactement. Alors on ne peut plus rien dire. Hein. C'est juste qu'on est face à des responsabilités aujourd'hui et que c'est toujours facile quand c'est toujours les mêmes qui tapent sur les mêmes. Quoi.
Le sujet qui fâche, l'argent, vos contenus sont gratuits. Donc pour gagner votre vie et pour payer les salariés, vous avez besoin de la pub. Et vous l'assumez.
On vit de la pub. Point relou, on le sait, mais c'est important. En gros, comment ça marche les OP ? Des marques viennent nous voir parce qu'on a un public de jeunes, même si on a quelques anciens qu'on salue. Salut les vieux, allez vous coucher. Et donc, si on a un sujet de top qui colle avec leur marque et que nous, on est OK avec la marque, et bien, ils sponsorisent notre vidéo. Alors sans ça, ben, au final, on perd notre boulot parce que la YouTube Money, ça paye même pas les salaires, ni le fromage, ni toute la bière qu'on s'enfile. Donc quand on voit des commentaires sous les top sponsors qui disent « Alors Topito, vous avez besoin d'argent ?» Et ben, on vous répond « Ben ouais. » Carrément même.
C'est la première fois que je vois un site qui donne son mode de financement.
Ah bah ouais, mais en même temps, il faut être honnête, tous les youtubeurs marchent à la pub. Nous, on fait partie de tous ces gens d'internet, on marche à la pub.
Vous savez ce qui se passe quand on veut inviter un youtubeur ?
Non.
9 fois sur 10, l'attaché de presse nous dit « Ok, il vient, mais un truc, pas de question sur l'argent. »
Ah.
C'est le sujet ultra ultra table où ils peuvent parler de tout, mais pas d'argent.
Bah, je peux parler de tout, mais aussi d'argent, il n'y a pas de problème. On est une boîte, on est rentable à la fin de l'année, il y a 30 salaires à payer par mois, il faut qu'on ait de l'argent. C'est de la publicité à 70%, 80% de notre chiffre d'affaires. Quoi.
Vous êtes diversifié, donc c'est plus seulement un site de divertissement, vous l'avez dit en préambule. Vous avez créé un podcast qui s'appelle Topito Happy Hour, 2 cahiers de vacances, 2 jeux de société, un agenda, une dizaine de livres. Est-ce que ça rapporte ou est-ce que ça fait de la surface médiatique qui font que les gens vont sur votre site ?
Globalement, non, ça ne rapporte pas. Tous ceux qui écrivent des livres savent que les livres, si on n'en vend pas 18 millions...
Non, pas du tout. Les livres, c'est rentable à partir de 500, 600, 700.
Ah bah alors, on a peut-être mal négocié.
Ouais.
Mais en tout cas, non, c'est pas notre source de revenus. À chaque fois, on se pose la question, est-ce que ça nous fait marrer de faire ça ? Oui, alors on le fait. Et puis on le fait, et ça se vend, c'est très bien pour la plupart. Et donc tant mieux, voilà.
Ça veut dire que vous vendez vos livres à moins de 1000 exemplaires.
Non, en plus, on a le guide des jeunes parents, du jeune papa, de la jeune maman, qui se vendent très très bien et qui sont là depuis...
À combien ?
Je sais pas, je suis pas vraiment calé sur le chiffre.
Parce qu'on considère qu'à partir de 10 000, c'est un best-seller, donc c'est bien, vous êtes en train de vous faire arnaquer par votre imprimeur. Parce que normalement, si vous vendez 10 000, vous gagnez de l'argent.
Non, mais on gagne de l'argent, mais par rapport au fonctionnement de la boîte, c'est jamais énorme.
Autre activité de Topito, vous l'avez dit, vous produisez des spectacles de stand-up ce soir, c'est tous les mercredis, il y a un Topito Comedy Club. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce Topito Comedy Club ?
Eh bien, c'est un plateau stand-up où il y a 5 ou 6 stand-uppers qui viennent parler. Alors, on a Urbain qui travaille chez nous, qui lui s'est lancé dans le stand-up aussi grâce à Topito, ou avec Topito en tout cas. Et donc, tous les mercredis, vous avez un plateau de 5 personnes. Et on a reçu les plus grands. On a reçu Blanche, on a reçu Haroun, on les a tous eus. Tous.
Incroyable. Blanche à ses débuts, ou Blanche, je veux dire Blanche Gardin.
Oui, Blanche Gardin. Oui.
Ouais, on voit qu'elle a été à ses débuts, parce que vous l'appelez Blanche. Alors maintenant, elle s'appelle Blanche Gardin. Ça coûte seulement 5 euros. Et ces gens-là, des grands noms, vous les avez eus à leur début, où ils viennent encore faire un petit coucou en souvenir du coup de pouce que vous leur avez accordé, pardon.
Bah, on les a eu à nos débuts. Au début, c'était plus compliqué d'avoir les gens, mais aujourd'hui, c'est tous des amis proches de Topito. Et si on peut les faire travailler en plus sur des vidéos ou sur d'autres projets, des livres ou des choses comme ça, on le fait avec plaisir.
D'accord, vous allez faire le top 10 des lapsus à ne pas faire à la radio.
J'ai encore fait un lapsus.
Non, pas du tout. C'était juste comme ça pour vous dire salut. Merci beaucoup, Benoît Lebro. Je vous dirais le pire que j'ai fait, mais je peux pas le dire à l'antenne. Responsable des réseaux sociaux à Topito, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Et j'ai appris un truc dingue, c'est que ça se voit pas comme ça, vous avez fait des études.
Ah bah ouais,
ouais. Et vous étiez avec Justine Holman.
On a fait la même école, ouais.
L'enchaînement.
Culture Média continue avec vos prochains invités, Philippe, Alexandre et Zach, deux experts de l'émission de TFX, Cleaners, les experts du ménage. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et on accueille tout de suite Alexandre et Zach de l'émission Cleaners, les experts du ménage.
De A à Z, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Zach.
Bonjour.
Vous êtes deux des quatre experts de l'émission Cleaners, les experts du ménage, c'est sur TFX. Quand j'ai vu le nom de l'émission, je pensais même pas que ça existait, une émission comme ça. Cleaners, de l'anglais to clean, qui veut dire nettoyer. Vous êtes les nettoyeurs, les rois du ménage. Et vous allez chez les gens dans les cas désespérés. C'est le vendredi soir en prime time sur TFX. Et ça démarre comme ça.
Crasse, bazar, saleté, capharnaüm. Ce sont plusieurs centaines de Français qui vivent dans un chaos indescriptible, qui rend leur quotidien invivable. Quand la situation est désespérée, quand il n'y a plus aucune solution, aucun espoir, c'est à eux qu'on fait appel. Les cleaners, c'est-à-dire les nettoyeurs professionnels. 4 agents prêts à intervenir à tout moment.
Ce qui arrive.
Non mais l'ambiance sonore, on dirait un film d'horreur. C'est la Troisième Guerre mondiale. Sérieux, le ménage, la saleté, ça peut vraiment vous empêcher de dormir, vous contrarier, Alexandre?
Ça peut. Effectivement, le soir, quand je vais me coucher, il faut que tout soit clean. Il faut vraiment que mon canapé soit retapé, que la petite chiffonnette soit passée sur la table en verre. Il faut que... Ouais.
Zach, pareil?
Alors non.
Non.
Un petit peu moins qu'Alex. Non, un peu moins.
Alors, je vais faire les présentations. Alexandre, vous faites 2m05. Je le dis parce que c'est dans chacune de vos descriptions. Mm-hmm. Et on vous voit tenir des aspirateurs dans des positions incroyables. On dirait Chabal. Mais dans la vie, vous êtes cuisinier.
Ouais,
mais accro à la propreté, ouais. Y compris dans votre resto. Ça se passe comment dans votre resto?
Dans mon resto, c'est aussi clean que partout où je passe, en fait. Hein. Il faut que les équipes, elles suivent. Et puis, non, c'est carré, quoi.
Je vais le dire, carré. Vous avez eu un contrôle d'hygiène. Dites-nous la note que vous avez obtenue au contrôle d'hygiène. Écoutez ça, Justine.
19,90. 6 sur 20.
Ouais. C'est juste pas possible. Comment?
C'est un contrôle d'hygiène en fait continu sur une année complète. Donc c'est plusieurs audits et la moyenne faite m'a donné un 19,86 sur 20.
D'accord, en vous emmenant en bord de mer, déjà quand on est à deux, on est content. Zach, vous êtes blogueur, spécialiste du rangement. C'est quoi le nom de votre blog?
Zach a dit.
D'accord. En un seul mot?
Zach a et plus loin dit.
Donc non, donc en trois mots.
Exactement.
Comment vous êtes venu à vous passionner vous-même pour le ménage, pour le rangement? Comment c'est venu?
Alors moi je suis vraiment plutôt sur la partie effectivement rangement et réaménagement, etc. Ouais. Donc j'avoue que j'aime bien laisser la partie ménage un peu cracra qui fait peur et film d'horreur.
Non mais le rangement chez vous c'est incroyable.
Mais moi du coup je range tout le temps.
On dirait que vous avez un toc du rangement.
Eh ben c'est important quand même, une maison bien rangée c'est un esprit bien rangé.
Ouais, voilà. D'accord. Tout à fait. C'est justement ça, quelqu'un qui a un toc, il vous explique que non, il est normal. C'est
absolument
à ça qu'on les reconnaît. C'est incroyable. Il y a deux autres personnes dans l'émission, il y a deux filles.
Ouais.
Il y a Leslie et Laura. Mm-hmm. Je vais le dire, elles ne sont pas là parce qu'elles ne sont pas à Paris. Non. On n'a pas du tout fait un choix sexiste, mais c'est qu'elles ne pouvaient pas venir ici. Mm-hmm. J'ai retrouvé une citation de Leslie, qui est femme de chambre, polyvalente dans un hôtel. Elle dit que chez elle, elle passe son temps à faire la poussière et elle avoue, je préfère faire le ménage dans la maison plutôt que manger. Quand même, on se dit, ces gens-là sont fous, ils ont bien trouvé. Comment vous avez été recruté par l'équipe de prod tous les deux, Alexandre?
Casting sur les réseaux sociaux, j'ai simplement postulé avec un petit doigt en l'air comme ça sur une demande de « Y a-t-il des maniaques parmi vous ?» Et puis voilà, ça s'est fait, et puis très rapidement.
Et vous, Zach?
Et moi, c'était également aussi via les réseaux sociaux, sur la partie rangement, sur la partie... En fait, sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à parler de bien-être et de on va bien et c'est pas grave et dire aux gens, ça arrive à tout le monde d'être un petit peu débordé. Et je le fais toujours avec sourire et joie et bienveillance. Et c'est pour ça qu'on m'a contacté.
Alors, on va parler des gens chez qui vous allez, parce que ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y ait des gens chez qui ils soient dégueulasses, c'est qu'en plus, ces gens acceptent. Il y a une caméra de télé qui arrive. Dans une émission, il y a Laura qui arrive chez un type, elle lui dit, tu vis là-dedans pour de vrai? Elle pensait que le gars, il avait conçu un décor, tellement que c'est crade. Alors, le premier cas, c'est Marie, elle a 49 ans, elle habite seule, elle a complètement démissionné du poste ménage, on l'écoute.
Ça fait très longtemps que je n'habite plus personne chez moi, parce que voilà quoi, moi j'ai honte. J'ai une petite fille de 5 mois, à cause de tout ce désordre, ma fille ne veut pas vraiment venir ici. J'aimerais bien qu'elle passe un petit peu plus de temps ici, que je la vois un petit peu plus souvent. Moi je ne veux plus vivre comme ça, donc il faut vraiment faire quelque chose.
Et là on se dit, mais comment c'est chez elle, parce que vous n'avez pas l'image? Réponse des experts.
Ce matin, Culture Média s'intéresse à la nouvelle émission de TFX Cleaners, les experts du ménage. Alexandre Ezac, deux des experts, sont avec nous pour tout nous expliquer. On les retrouve bien sûr dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
TFX diffuse depuis peu Cleaners, les experts du ménage, où quatre pros du nettoyage aident des particuliers qui ont renoncé à nettoyer et trier chez eux. Deux de ces experts sont avec vous, Philippe Vandel. Dans Culture Média, c'est Alexandre Ezac.
Renoncer, c'est vraiment le mot. Marie, 49 ans, qui vit seule. Elle vit seule. Elle avait des enfants, ils n'osent plus venir. Et surtout, elle a une petite fille, parce qu'elle est grand-mère. Sa fille ne veut pas venir avec la petite dans la maison. Donc on se dit, mais comment c'est chez elle? Réponse des experts.
Cher cleaner, j'espère que t'es bien accroché quand même. Parce que là, c'est loin d'être clean.
Oh, mon Dieu.
Je suis arrivée à un stade où ça m'a dépassé, quoi.
L'étendue des dégâts, quoi.
Clairement, c'est impressionnant de voir ça. Pour ma part, je me dis, mais comment on fait pour vivre là-dedans?
Le linge.
Oh, et la cuisine.
Les images de chez Marie, ça me... J'avoue que je sais pas comment réagir. Je suis un peu... Il y a un truc là comme ça, mais on a envie de l'aider, bien évidemment, mais ça a l'air sale, ça a l'air malsain. L'hygiène, elle est à moins 12. Enfin, c'est juste pas possible, quoi.
Ah non, mais il y a des infographies. Marie, elle a 43 kilos de linge non rangé, non nettoyé dans la maison. Mais là, j'ai rien dit. Chez Marie, Alexandre, parce que c'est vous qui vous êtes coltiné ce dossier. Vous avez dû nettoyer des crottes de rats dans la cuisine. Et même en regardant l'image, moi, ça m'a donné envie de vomir. Parce qu'il y avait les crottes de rats par terre. Mais par terre, il y avait aussi un nécessaire à raclette. Mais c'était horrible. C'est le cas le plus désespéré que vous ayez vu, Alexandre.
C'est le cas le plus compliqué, je crois. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était un cas compliqué.
Mais alors, la question que tout le monde se pose, comment se fait-il que des gens viennent chez elle et qu'elle dise, tiens, il faut qu'une équipe de télé vienne voir ça chez moi?
Je pense vraiment qu'elle avait vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide. Je crois qu'elle était vraiment dans le désespoir et elle a fait appel à qui elle pouvait faire appel. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs son frère qui a appelé pour elle.
J'ai compris. Etc. C'est pas elle qui a téléphoné, c'est pas possible.
Non. Et elle a vraiment eu du mal au départ à nous ouvrir ses portes. Effectivement, moi je pense que c'est compliqué pour les gens d'accepter des caméras chez soi, de dévoiler son intérieur comme ça. C'est hyper compliqué.
Il y a une part de mise en scène ou pas?
Non. Très honnêtement, la première scène d'ouverture de porte, la première rencontre et la première prise est la seule.
Alors attendez, vraiment... quand même, parce qu'il y a un cagibi qui est condamné, on ne peut pas entrer dans le cagibi tellement qu'il y a du bordel derrière le cagibi, derrière la porte, sauf que c'est filmé de l'intérieur.
Ah,
donc,
oui,
comme vous avez fait pour faire rentrer la caméra.
Cette porte-là, le caméraman, lui, a installé une petite caméra.
Il n'a pas pu rentrer,
moi,
il a mis une petite caméra.
Je n'ai pas vu, et en fait, tout est surprise pour nous. Tout est surprise pour nous.
Et alors, il y a la saleté et il y a le rangement. Alors vous, Zach, vous êtes allé chez Anne, elle a 35 ans, elle habite avec son mari et avec leurs trois enfants, ils ont 60 mètres carrés, donc c'est pas... ça va, il y a la place, chez elle c'est propre, mais elle range rien. Il y a du bordel partout.
Ah, oui.
Elle est ce qu'on appelle accumulative compulsive, exemple, elle planque toutes sortes de choses derrière la télé, c'est une télé à écran plat, et la télé se retrouve à 50 cm du mur, comme une vieille télé à l'ancienne. Elle a plus de bébés depuis 7 ans, mais elle a 5 porte-bébés chez elle qu'elle veut pas jeter. Et alors ce qui m'a fait marrer, quand même, dans la chambre de sa fille, il y a des jouets partout. Sa fille joue plus avec tout, mais encore, c'est les enfants, vous allez me dire. Mais il y a quand même des vêtements partout, une pompe à vélo et un costume de son mari. Pardon, c'est la psychiatrie qu'il faut pour elle.
Alors, oui.
Mais vous n'êtes pas psy.
Non, mais du coup, c'est
comment
ça,
vous avez fait alors, racontez.
Alors, non, mais alors déjà, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que disait Alex. Il faut un grand courage en fait pour déjà ouvrir les portes. Mais c'est aussi ça la force de cette émission, c'est qu'on arrive et que très rapidement il y a une connexion entre nous et les gens. Et très vite, on oublie les caméras. Parfois, effectivement, et on a besoin de refaire quelques séquences parce que tout est surprise, on ne nous dit rien pour qu'on ait nos réactions, etc. Là, pour le cas de Anne, il y a eu plein de fois, de toute façon, vous le verrez, je ne sais pas quoi faire.
Ah, j'ai vu l'émission.
Là, les yeux écarquillés, et je me dis, mais bip, comment on fait?
Mais là, j'y croyais pas.
Mais oui.
Et elle ouvre, il y a des sacs entiers. Dans des sacs plastiques, des sacs poubelles, avec, vous allez me dire ce qui a été coupé. Je raconte pour Justine Holman, et il sort des vêtements, et des vêtements, il y a une barboteuse qui n'a jamais été portée, qui a encore l'étiquette et qu'elle ne veut pas jeter, alors que ses enfants rentrent plus dedans.
Voilà. Et dans cette même séquence, je retrouve 5 fois la même robe. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est une info. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais je retrouve 5 fois la même robe et je lui dis, mais Anne, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bon, et c'est aussi ça qui est génial, c'est que du coup, les gens sont là, ils acceptent et on leur vient en aide et on range, quoi.
Elle-même, comment vous êtes-vous retrouvée chez elle? C'est son mari qui a appelé? C'est la famille? C'est
alors
la DAS?
C'est elle-même qui a... Ah, elle avait dit pas de fou rire en live. Ouais. Alors, non, elle a demandé, pour le coup, c'est elle-même qui a participé, en disant, bon, je n'arrive plus à m'en sortir, j'ai besoin d'aide, venez m'aider.
Et je veux dire quelque chose, parce que c'est aussi une émission citoyenne, je pèse mes mots, c'est que ça a l'air comme ça, on dit, tiens, c'est marrant, il y a des fringues partout. Non, la pollution textile, les achats de vêtements qu'on ne porte pas, c'est la deuxième cause de pollution après l'hydrocarbure.
Exactement.
Donc arrêtez d'acheter des fringues que vous ne mettrez jamais, et sinon, allez les donner. Vous voulez dire quelque chose, Alexandre?
Ouais, je voulais rebondir sur un truc parce qu'il y a pas mal de choses que je vois sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas un grand habitué des réseaux sociaux. Et depuis les diffusions d'émissions, il y a pas mal de gens qui se lâchent, effectivement, parce que c'est toujours facile de se lâcher et de juger les gens.
Bien sûr.
La réflexion demande beaucoup plus de jugeote. Donc, il faut savoir que tout n'est pas monté. Mais les fringues, par exemple, quand on les met dans les sacs, il faut savoir que derrière, les sacs sont retriés.
Mais ça, on a compris.
Je tiens vraiment à le préciser. Non, il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc,
je l'avais tout à fait compris.
Les fringues sont redistribuées, redispatchées à des assos.
Et je dois dire quelque chose, que vous montrez comment on fait pour nettoyer. Mmh. Et aussi, là aussi, très intéressant, il y a une pleine page là-dessus. Ça n'a rien à voir dans Le Parisien aujourd'hui. Contrairement aux émissions il y a quelques années où il y avait toutes sortes de cool produits multicolores, là pas du tout. Oui. Vous défendez des produits naturels, le bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Et ça marche aussi bien que les produits normaux du supermarché?
Oui.
Vraiment?
Vraiment, oui.
Oui.
Bah, faites le test chez vous, vous verrez. Vous mettez du vinaigre là où il y a du calcaire sur votre robinet, aux encolures, etc. Vous mettez du bicarbonate, ça va faire une petite mousse et puis vous frottez avec une brosse à dents et voilà.
Vous donnez d'autres conseils santé, pas de corrosion dans les poêles à frire, sinon les petites particules se retrouvent dans les aliments.
Exactement.
Et Zach, vous avez inventé, je n'en revenais pas, la machine à plier les t-shirts. Ça se fait avec un carton et c'est magique, et moi qui n'arrive pas à plier les t-shirts.
Et ouais.
Non mais c'est incroyable.
C'est très facile, non? Du coup.
Bah oui, c'est très facile.
L'idée, c'est d'apporter un peu de que ce soit ludique et d'amusement à toutes ces tâches.
Ouais, alors je l'ai pas dit, c'est adapté d'un format anglais qui s'appelle Obsessive Compulsive Cleaners, pardon pour l'accent, émission produite par Adventures Line Productions. Ce sont les gens qui produisent Koh-Lanta, donc c'est presque filmé, c'est comme une aventure.
C'est la même émission en fait, pas sur une île. Voilà. Mais c'est la même émission effectivement.
Des îlots de fringues.
Hier, nous recevions la comédienne Frédérique Bell. Elle adore votre émission, elle la regarde, elle regarde même la version anglaise, et elle avait une question pour vous.
Bonjour, c'est Frédérique Bell. J'aurais aimé savoir si vous aviez trouvé des tampons usagés ou des serviettes usagées.
Alors, Frédérique, merci pour cette charmante et douce question. La menstruation est un sujet qu'on met trop sous silence. Écoute, Frédérique, je vais te répondre.
Non, mais blague à part, est-ce que vous en avez déjà trouvé? Alex, il n'ose pas répondre. Alors, il s'est reculé du micro d'un mètre. Alexandre, est-ce que vous avez déjà trouvé ça?
Moi, non.
Bon, voilà.
Eh bien,
voilà.
Moi, oui.
Vous, oui.
Eh bien, bien sûr que j'ai trouvé ça. On rentre dans l'intimité des gens.
Vous connaissez les scores d'audience?
De
l'émission?
Ah, de la mission, bien sûr.
Ouais, ça marche
ils
bien, non?
Très bien, on est très contents.
Dites-les.
Alors, beaucoup de chiffres. Hein,
non, moi, je vais vous le dire. Oui, le vendredi, on est sur la TNT, donc évidemment, les audiences ne sont pas comparables avec les grosses chaînes. Mais quand même, le vendredi soir en prime time, vous êtes la 4e chaîne nationale et 2e chaîne TNT sur les 15-34 ans.
Yeah.
Vous regardez vous-même le programme?
Ouais.
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 Et vous êtes déjà invités les uns chez les autres?
Pas encore.
Mais on s'est invité à l'extérieur, mais on ne sait pas encore.
J'aimerais bien avoir votre avis sur comment c'est chez lui. Alors, et comment c'est chez lui.
Moi, je ne les inviterai pas, je vous le dis.
Pourquoi?
Ah non, mais ils sont beaucoup trop toqués.
On est trop maniaques, je crois.
Ah oui?
Ah non. Ah oui. Laura souvent m'appelle, elle me dit t'as fait tes fenêtres ? Alors sinon je vais bien Laura.
Ouais.
En ce moment.
Ouais. Voilà. Ça va ? Et comment il est le studio ? Ça va, c'est propre ?
Moi ça va. Ben, je trouve qu'il est très bien. Ouais.
Ouais. Et les gobelets un peu partout, ça va ?
Il y a un petit peu de... Non mais ça va.
Ça va. Voilà. C'est vraiment une émission qui donne la pêche, sauf qu'après on a envie de tout virer chez soi, je vous le dis. Zach et Alexandre, et puis, je vous félicite, je vous remercie. Ça s'appelle Cleaners, les experts du ménage. Ça passe le vendredi, donc après-demain, à 21h. Ça va faire une bonne Saint-Valentin. Tiens.
Oui.
Dans un instant, on poursuit avec notre heure culture, Philippe. Mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur, votre rendez-vous d'humour dans Culture Média, avec le duo Stéphane De Groot et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston-Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane De Groot.
Toi, tu dis De Groot.
Une vraie question. En France, on dit De Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Bah, du coup, je...
Rien. Bonjour, Gilles. Nous sommes mercredi 12.
Il y a un anniversaire de quelqu'un de proche ?
Non. Enfin, oui. Enfin, pas proche, quoi. Escoffier est mort.
Escoffier.
Auguste Escoffier.
C'est noté, merci.
Plutôt de le noter, si vous pouviez réagir, ça nous arrangerait, en fait. Vos notes, on les voit pas.
Escoffier, c'est Maurice.
C'est Auguste, mais ça, je l'ai dit il y a exactement 8 secondes.
C'est un alpiniste.
C'est un grand cuisinier.
Ah.
Je sais pas pourquoi on continue à faire cette émission, parce que dès que j'aborde un sujet avec vous, vous ne savez pas, vous me larguez en fait.
Faut tout de suite démarrer sur le cuisinier, le meilleur ouvrier de France en maçonnerie. Si je me souviens pas du prix Goncourt de 1980, vous allez m'insulter.
Bah alors dites-nous le prix Goncourt de cette année.
Bah voilà, j'ai oublié.
Vous voyez, moi je veux bien vous aider. Hein.
C'est qui le prix Goncourt cette année ?
Jean-Paul Dubois. Ça c'est cette année. Hein. Même ça, vous calez, vous me laissez en rade.
En rade de Toulon.
Brasse campagne. Auguste Escoffier, le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. Il était l'inventeur de la brigade de cuisine. Il y avait les brigades du tigre avant, c'est devenu les brigades de cuisine.
Vatel, il avait une sacrée brigade en cuisine.
Oui, mais on n'appelait pas ça une brigade. Il y avait pas le chef, le sous-chef, le master-chef et la contre-allée. Tous les grands cuisiniers s'inspirent encore aujourd'hui d'Escoffier.
D'accord, d'accord.
Il a inventé la pêche melba.
Oui, oui, oui.
Oui, parce que c'est la pêche melba. Si je vous dis Pierre Carlet.
Pierre Carlet.
Pierre Carlet de Chamblain.
Pierre Carlet de Chamblain, ça monte d'un cran, là.
De Marivaux.
Ah ! De Marivaux.
Il est mort à 75 ans. Ces gens mouraient tard, en fait, avant de naître tôt.
Forcément.
Il y a une cause à décès. Dites-moi, Gilles, j'allais vous appeler Pierre Gilles Gaston de Fer, mais ça n'a rien à voir. Marivaux, vous avez lu ?
Bonne question.
Mauvaise réponse.
Il n'y a pas de réponse évidente.
Avec vous, il y a rarement d'évidence et encore moins de réponses. Dans les naissances, Siménon est né un 12 février.
Grand Belge. J'ai vu Siménon à la télévision. J'ai vu...
Vous avez pas bien vu, hein. Vous avez consulté au niveau de votre mémoire des gens, des spécialistes qui pourraient être très gentils avec vous et...
Bah, je sais pas.
Si vous oubliez que vous oubliez, vous n'avez rien oublié en réalité.
Quel est le nom d'inspecteur de Siménon ?
Je vais vous donner un indice. Canard. Bec.
Bec.
Foie gras.
Oie.
Oie.
Foie gras d'oie.
Foie gras d'oie. Maigret.
Ben oui, Maigret. Gabin a fait un Maigret génial. Un grand Maigret.
Puis il y avait le petit Maigrot.
Puis voilà, quoi.
On va terminer sur cette journée qui n'en est pas une. Je m'en vais retrouver le 13 février parce que c'est demain. À demain, Gilles.
À demain.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane De Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Feuilleton quotidien retrouvé dès demain à 9h55 et en podcast sur Europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va parler culture. Nous recevrons les acteurs François Berléand et François-Xavier Demaison à l'affiche de la pièce Par le bout du nez. Hélène Manarino va nous dresser un portrait croisé et tout aussi inattendu. Et puis dans Les Indispensables, une série également attendue que le portrait d'Hélène Manarino, aussi attendu. J'aurais pas dû remplacer aussi par également, ça marche plus du tout la phrase. Baron Noir sur Canal+. Margot Barallon a vu toute la saison. Enfin, mais elle va pas vous dire la fin. Enfin, Thierry Geffrotin nous fera découvrir une biographie illustrée d'un des plus grands génies de la musique classique, un jeune qu'on aide beaucoup, Vivaldi.